Bonjour. Nous allons faire une lecture dans 1 Jean chapitre 5 et verset 12. Seigneur, je te prie que ta parole fasse du bien à chacun aujourd'hui et que chacun puisse se réjouir en toi, au nom de Jésus. Amen. Celui qui a la vie, non, pardon, celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. La vie. Tout le monde vit, mais quelle sorte de vie? Jude, le frère de Jésus, parle des gens perdus comme étant des arbres d'automne, deux fois morts, déracinés. Vous trouvez ça dans Jude au verset 12. Un autre passage des Écritures saintes décrit certaines personnes comme étant mortes, bien que vivantes. Bon, elles respirent, elles bouffent, elles bougent, enfin bon. Mais il n'y a pas l'étincelle de vie en eux, ils existent. Une vie sans Jésus, c'est une vie artificielle. L'alcool, les drogues et autres compensations sont seulement des choses destinées à rendre la vie, l'existence supportable. Mes frères et sœurs, dans Apocalypse 3, 1, il est dit, je sais que tu passes pour être vivant et pourtant tu es mort. Il dit ça à des chrétiens. Hein? Combien de personnes sont comme ça? Combien? La vie est enracinée en Dieu. Tout ce qui existe, les choses, les personnes, l'espace, le temps. Et nous n'avons pas besoin de ressentir la présence de Dieu constamment. Il est là. Aussi vrai que, par exemple, bien, nous n'avons pas besoin d'être conscients. Tiens, il faut que je respire. Tiens, il faut que j'expire. Tiens, il faut que je respire. Il faut que j'expire. Non, ce sont des choses qu'on fait inconsciemment et on sait que Dieu est là, il n'y a pas besoin de le sentir. Les chrétiens veulent sentir la présence de Dieu. Mais à moins que nous ayons une connaissance du monde spirituel, nous sommes des êtres humains incomplets. Notre expérience au quotidien, c'est une dérive sans but. Et voilà ce qui donne de la valeur à l'évangélisation, ça lui donne une réelle importance parce que notre mission est de remettre les gens sur pied, de restaurer leur position en Jésus-Christ, en les fondant dans la foi, en les basant sur la foi, dans la foi. Écoutez les gens quand ils parlent de la vie, ils disent, oh, la vie est dure, la vie est triste, la vie, ma vie, je suis tout le temps dans les affaires, la vie est difficile, la vie, Jésus est la vie. Le message de Jésus introduit une nouvelle catégorie, la vie éternelle. On va lire Jean 3, 36. Jean 3, 36. Voilà ce qui est dit là. Celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, mais la colère de Dieu reste au contraire sur lui. Mes frères et sœurs, il n'y a pas de forme de vie plus élevée que d'être en communion avec Dieu. La vie éternelle, c'est pas seulement une vie qui dure à jamais. Il y en a qui disent l'éternité, c'est long, surtout vers la fin. Non, la vie éternelle, c'est une qualité de vie, une qualité de vie, une qualité de vie divine. On ne peut pas acheter, on ne peut pas acheter. La valeur de la vie ne se mesure que par un seul paramètre, son prix. Et Jésus a payé le prix en donnant sa vie, c'était le prix. Notre vie éternelle porte le cachet de sa croix. Dieu a tant aimé le monde, et oui, il a tant aimé le monde, c'est vrai, mais il veut que nous voulions ce qu'il nous donne. Il y en a qui ne veulent pas. Il veut que nous soyons unis à Jésus-Christ, parce qu'alors ainsi, nous avons accès à la source de la vie, à une existence réelle. Je connais des gens qui cherchent à intensifier leur vie humaine par des pratiques religieuses ou par des exercices mentaux qui stimulent leur force intérieure et leur potentiel. La vie éternelle n'est pas un simple stimulant. C'est un nouveau commencement. On va lire 2 Timothée 1:10. Voilà ce qui est dit. C'est lui qui a réduit la mort à l'impuissance, donc Jésus, et a mis en lumière la vie et l'immortalité par l'Évangile. Par la bonne nouvelle, il faut que nous partagions cette bonne nouvelle. La vie éternelle, c'est pas simplement un stimulant. Dieu n'est pas un artiste qui nettoie et restaure son œuvre d'art, non. Il en fait une nouvelle, il a fait de nous des nouvelles personnes. Dans Éphésiens 2:10, il nous est dit que nous sommes son œuvre d'art. Son œuvre en nous n'est pas superficielle, c'est pas un lifting. On va lire Galates 6. Galates, j'ai rien contre les liftings, hein, ceux qui veulent ça. Galates 6:15. En effet, en Jésus-Christ, ce qui a de l'importance, ce n'est ni la circoncision, ni l'incirconcision, mais c'est le fait d'être une nouvelle créature. Voilà, c'est ça qui a de l'importance, c'est d'être une nouvelle créature, pas quelque chose d'arrangé. Ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle création. Et c'est précisément ce que Dieu fait. Il nous fait naître de nouveau, nous devenons une nouvelle personne. Ce que les évangiles nous disent est que la vie en Jésus-Christ n'est pas une simple idée, une promesse, un truc à espérer, quelque chose à chercher, non. Jésus-Christ a accompli la promesse de Dieu. Dans 1 Corinthiens 4:20, il est dit « Car le royaume de Dieu ne consiste pas en paroles, mais en puissance. » En puissance. Mais il faut bien en parler, parce que si personne parle, si personne dit, eh bien, comment voulez-vous que les gens le sachent ? Quand vous évangélisez, quand vous témoignez de votre foi en Jésus-Christ, ça libère la puissance du salut. Bon, les religions chrétiennes poursuivent la paix, le calme, l'équilibre mental. Elles développent des concepts qui mènent à la vie. Et chaque religion fait l'éloge des vertus de son propre système de valeurs. Mais cependant, l'Évangile ne fait pas partie de ces trucs-là parce que il ne fait partie d'aucun système. Dans la Bible, il y a 2 mots qui se traduisent par le mot « vie ». Mais il y a une différence entre ces 2 mots. Il y a le mot « bio ». C'est la vie naturelle. C'est mentionné, le mot « bio » est mentionné 11 fois dans le Nouveau Testament. Alors que l'autre mot, « zoé », apparaît 134 fois dans le Nouveau Testament. « Zoé », ça signifie « vie surnaturelle. Le premier homme, Adam, a été créé bio. Et s'il n'avait pas péché, il aurait reçu la vie zoé, parce qu'il aurait pu manger l'arbre de la vie. Mais Dieu n'a pas voulu qu'il mange de la vie, l'arbre de la vie, parce qu'il dit, il est tombé, il est dans le péché, il va vivre éternellement dans le péché, c'est pas possible. Il l'a chassé, il les a chassés du jardin. Aujourd'hui, tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme leur sauveur, comme leur Seigneur, reçoivent cette vie Zoé. Dans Jean, on peut lire Jean 10, 10, si vous voulez, Jean 10, 10, voilà ce que Jésus dit. Le voleur, donc le diable, ne vient que pour voler, égorger, détruire. Je vous fais pas de dessin. Il dit, mais moi je suis venu afin que mes brebis aient la vie et qu'elle l'ait en abondance. Je suis le bon berger. La vie abondante. Ça apparaît plus de 100 fois dans le Nouveau Testament, pas forcément avec le mot abondant, mais avec le mot surpassant, toujours plus, toujours croissant. Dieu donne sans mesure, généreusement. Mais ça ne s'arrête pas là. Zoé n'est pas seulement surnaturel, c'est aussi originel. C'est la signification, les significations du mot. C'est une vie originelle parce qu'elle vient de Dieu qui est à l'origine de tout. Dieu a tout créé et chaque être a sa propre forme de vie. Même les cailloux que vous voyez, ben, ça grouille d'atomes, tout ce de la vie. Cependant, les histoires, les héritiers pardon, du salut sont doublement bénis. Un, ils vivent en Dieu. Deux, ils reçoivent sa nature. Sa nature. On va lire 2 Pierre 1, 4. Enfin, déjà verset 3. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui est nécessaire à la vie et à la piété en nous faisant connaître celui qui nous a appelés par sa propre gloire et sa force. Celle-ci nous assure les plus grandes et les plus précieuses promesses. Ainsi, grâce à elle, vous pouvez fuir la corruption qui existe dans le monde par la convoitise et devenir participants de la nature divine. Devenir participants de la nature divine. Bon, comme on dit, un chat ne fait pas un chien. Un fils d'homme, une fille, à la nature de son père, enfin de ses parents, des êtres humains. Et les enfants de Dieu, eh bien, ils ont la nature de leur père céleste. C'est pas de l'arrogance, c'est pas de la flatte, on n'est pas en train de se monter la tête. C'est pas de l'arrogance de le dire. Parce que, mes frères et sœurs, notre fragilité, ça va vous étonner ce que je vais vous dire, mais notre fragilité, c'est exactement ce que Dieu veut. Il y a des animaux qui vivent plus longtemps que nous, il y a des plantes, des arbres qui vivent plus longtemps que nous, mais nous, nous sommes fragiles. Et Dieu a l'intention de démontrer sa gloire en démontrant sa grâce envers nous qui avons justement toutes ces faiblesses, cette petitesse, cette vie courte. Bon, il arrive que nous péchions, il arrive que nous cédions au malin, mais c'est encore par la grâce de Dieu que nous pouvons triompher de l'adversaire et que nous pouvons vaincre toutes les puissances de l'enfer. On va lire 1 Corinthiens 1, 26 à 28, je crois. Considérez, frères et sœurs, votre propre appel. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon les critères humains, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour couvrir de honte les sages, et Dieu a choisi les choses faibles du monde pour couvrir de honte les fortes. Dieu a choisi les choses basses et méprisées du monde, celles qui ne sont rien, pour réduire à néant celles qui sont, afin que personne ne puisse faire le fier devant Dieu. Eh oui, alors, Vous qui vous plaignez parce que vous vous sentez faible, parce que vous dites, oh, j'en suis que là, oh, j'arrive pas à faire ci, oh, je sais pas faire ça, oh, je suis maladroit, oh, puis je suis encore tombé, oh, puis vous vous plaignez. Arrêtez. Arrêtez de vous sous-estimer. Dieu a choisi les choses faibles de ce monde. Il vous a choisi justement afin de pouvoir démontrer sa gloire au travers de vous. Alors, cessez de vous plaindre. Témoignez de l'amour de Jésus-Christ. Témoignez de son amour aux gens. Ils en ont tellement besoin. Et vous avez tellement reçu, mais vous avez arrêté de regarder votre nombril et puis de vous sous-estimer. Non, témoignez de votre foi à tous. Je le dis au nom de Jésus, que Dieu vous bénisse. Amen. Au revoir.